Ils avaient été condamnés en première instance à des peines allant de 13 à 16 ans de réclusion criminelle, mais ils ont souhaité faire appel. Du 26 janvier au 2 mars, quatre hommes ont été à nouveau jugés pour leur rôle dans l'assassinat de Samuel Paty en 2020 à Conflans-Sainte-Honorine. Un procès en appel émaillé d'incidents. L'un d'entre eux notamment est suffisamment rare pour être souligné. Au cours du procès, deux magistrates qui siégeaient depuis le début de l'audience ont finalement été récusées et remplacées. Ce qui leur était reproché, un manque d'impartialité, notamment lors de la déposition de la fille d'un des accusés, qui s'est déroulée à huis clos le 16 février dernier. Sur quoi repose le devoir d'impartialité des magistrats? Quels sont les contours et les limites de leur rôle dans une cour d'assises? Je suis Pauline Revna et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Elisa Fernandez, bonjour, vous êtes journaliste police-justice à BFMTV.com.
Bonjour.
Manon Lefebvre, bonjour, vous êtes la secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Merci d'être avec nous et dans un instant, nous reviendrons avec vous sur ce devoir d'impartialité qui incombe aux magistrats. Mais tout d'abord, Elisa, on va revenir sur ce drame à l'origine de ce procès. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty est tué par un islamiste tchétchène.
Oui, ce professeur d'histoire-géographie est assassiné à l'arme blanche et décapité alors qu'il se trouve aux abords de l'établissement dans lequel il enseigne, le collège du Bois d'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Alors, pour comprendre un petit peu les racines de ce drame, il faut remonter 10 jours auparavant et tout démarre avec le mensonge d'une élève de 13 ans, la fille de Brahim Chnina, qui est donc l'un des accusés. Cette jeune fille avait en effet affirmé que le professeur avait discriminé des élèves musulmans lors d'un cours sur la liberté d'expression, cours durant lequel il avait présenté une caricature de Mahomet.
Il s'est finalement avéré que l'adolescente n'avait pas assisté au cours en question.
Oui, d'ailleurs, plusieurs élèves qui, eux, y ont assisté expliquent que le professeur avait simplement proposé à ceux qu'il souhaitait soit de sortir de la salle, soit de baisser les yeux, sans mentionner spécifiquement des élèves musulmans. D'autres, au contraire, diront que le professeur a bel et bien employé ces mots. Quoi qu'il en soit, le mensonge de la jeune fille a largement été relayé sur les réseaux sociaux, à la fois par son père, mais aussi par un prédicateur islamiste, Abdelhakim Sefrioui. Tous deux sont donc accusés d'avoir joué un grand rôle dans le passage à l'acte de l'assaillant, Anzorov, qui pour sa part a été abattu par la police dans la foulée de l'assassinat.
En première instance, 8 personnes sont renvoyées devant la justice.
Et toutes ces personnes, elles sont soupçonnées, donc on l'a dit, d'avoir joué un rôle plus ou moins important dans l'assassinat de Samuel Paty. Tous écopent finalement de peines allant d'un an à 16 ans d'emprisonnement. 4 d'entre eux vont faire appel. Tout d'abord, 2 amis et complices présumés de l'assassin de Samuel Paty, mais aussi Brahim Chnina, le père de l'élève donc qui a menti sur le cours auquel elle n'a pas assisté. 13 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Brahim Chnina. Et enfin, Abdelhakim Sefrioui, le prédicateur islamiste, 15 ans de réclusion criminelle en première instance. Dès l'ouverture de leur procès en appel le 26 janvier dernier, les 4 accusés ont sans surprise à nouveau contesté les faits qui leur étaient reprochés devant la cour d'assises d'appel spéciale de Paris. Brahim Chnina, lui, il a présenté ses excuses tout en déclarant qu'il ne reconnaissait pas les faits. Quant à Abdelhakim Sefrioui, il s'est dit, je cite, « totalement innocent ».
Alors Manon Lefebvre, on le rappelle, ce second procès s'est ouvert devant la cour d'assises spéciale. Ce ne sont pas des jurés qui composent cette cour, mais uniquement des magistrats professionnels. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le rôle de ces magistrats qui siègent aux côtés du président lors de ce genre de procès?
Oui, c'est une composition particulière qui s'applique parce qu'on est dans une affaire de terrorisme. Normalement, une cour d'assises, il y a 3 magistrats professionnels et des jurés populaires, même si c'est une composition qui tend à disparaître avec les nombreuses réformes qui sont intervenues. Vous avez le président d'assises qui mène les débats, qui a la présidence de l'audience, avec des pouvoirs en fait assez larges dans l'organisation de l'audience, dans ce qui... Il peut faire intervenir des gens, faire entendre des gens. Et là, dans ce cas-là, la question de la récusation de ces 2 assesseurs. Et donc, il y a les assesseurs qui accompagnent ce président et qui vont délibérer avec ce président. Tout le monde est à part égale, pour le coup, lorsqu'on délibère. Et ce sont eux qui vont juger, décider in fine de ce que va devenir cette affaire, qui est coupable, non coupable, les peines prononcées. C'est une collégialité de magistrats. C'est comme une audience correctionnelle qu'on voit classiquement le plus souvent, c'est juste qu'elle est un peu élargie et elle a une composition spéciale en raison de la nature de l'infraction des infractions qui étaient reprochées.
Elisa, on revient sur le déroulé de ce procès en appel dans l'affaire Samuel Paty. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'audience a été émaillée d'incidents.
Et à commencer par la stratégie très offensive opérée par l'un des avocats de la défense, maître Francis Villemain, qui défendait Abdelhakim Sefrioui. En fait, il estimait qu'il existe un tabou autour du fait que le professeur discriminait les élèves musulmans, et c'est la ligne qu'il a choisi d'adopter tout au long du procès. Cette stratégie, elle a suscité la controverse. Pour la famille de Samuel Paty, au contraire, le cours dispensé par l'enseignant n'avait rien de discriminant, d'autant que ce dernier était très curieux des religions. C'est en tout cas ce que dit sa sœur Gaëlle Paty, comme elle l'a précisé alors qu'elle était invitée de BFM TV fin janvier. Pour expliquer cette stratégie assez brutale, l'avocat a déclaré qu'il voulait tout simplement faire comprendre à la cour que le comportement de son client pouvait se justifier par un sentiment d'islamophobie qu'il a pu ressentir.
Second incident et pas des moindres, la composition de la cour a changé au cours du procès.
Exactement, à la surprise générale, deux magistrates qui siégeaient depuis le début du procès ont été récusées, c'est-à-dire qu'elles en ont été écartées puis qu'elles ont été remplacées. Il s'agissait d'une magistrate titulaire et d'une suppléante. Ces récusations, elles font suite à la déposition de la fille de Brahim Chnina, donc on l'a dit, la jeune fille dont le mensonge a déclenché toute une campagne de haine à l'encontre de Samuel Paty. Celle-ci a été entendue à huis clos le 16 février dernier. Et si on ne connaît pas précisément la teneur des débats puisqu'il y avait ce huis clos, plusieurs avocats de la Défense ont soutenu que les deux magistrates en question avaient manqué à leur devoir d'impartialité en formulant des remarques qui pourraient laisser apparaître leur opinion. Et la Cour, elle est finalement aller dans le sens de la défense en prononçant cette récusation des assesseuses.
Alors Manon Lefebvre, on l'a dit, il a été admis que ces deux magistrates avaient manqué à leur devoir d'impartialité. Alors tout d'abord, est-ce que c'est courant de voir deux magistrats récusés ?
C'est extrêmement exceptionnel. J'ai pas de chiffres, mais en réalité, c'est vraiment c'est très particulier. C'est-à-dire que les cas d'impartialité qu'on connaît le plus souvent, et ça arrive ça régulièrement, c'est l'impartialité la plus courante, c'est on est en lien avec une personne dans le procès, que ce soit la partie civile, que ce soit l'accusé, le mis en cause. Et donc, nous, on se déporte de l'affaire puisque notre impartialité peut être discutée. Et puis après, il y a les impartialités qu'on appelle subjectives, et ce terme est un peu discutable. C'est la part du juge, la part de biais du juge, mais qui est inévitable lorsque la justice est humaine. Et en l'occurrence, c'est cette partie-là de ce que j'ai compris, parce qu'encore une fois, je ne suis pas dans ce dossier et j'étais pas à l'audience, mais de ce que j'ai pu lire, en tout cas des comptes rendus de presse, c'est que c'était leur question apparaissait orientée. Et en réalité, lorsque ça arrive comme ça, et c'est tellement rare que on s'est interrogé sur la procédure qui a permis d'écarter ces deux magistrates. Et en fait, c'est sur la base d'un article du Code de procédure pénale qui impose l'impartialité des personnes qui posent les questions, que ce soit les jurés les assesseurs. Les jurés deviennent assesseurs. Et donc, le pouvoir discrétionnaire de la présidente, c'est le pouvoir qu'a la présidente ou le président d'assises, a permis d'écarter ces deux assesseurs. Mais c'est extrêmement rare. Ça relève, il y a eu, de ce que j'ai pu lire par voie de presse, une délibération pour prendre cette décision. Mais ça arrive. Et cette question de l'impartialité, elle est très importante. Mais elle ne doit pas servir de manière d'atteindre à la dépendance de la justice. Ce sont deux notions qui cohabitent, qui sont complètement différentes. Mais on ne peut pas remettre en question systématiquement l'impartialité du juge, parce que le juge est un être humain et qu'il a effectivement des idées, des convictions, mais qui doivent rester en dehors de la motivation d'un jugement. Mais le juge est un être humain, la juge est un être humain, et il y a toujours une part de biais. Si on ne veut plus de biais du tout, on va passer à une robotisation de la justice, mais même là encore, l'intelligence artificielle est créée par l'être humain avec tous les biais que ça peut entraîner, donc on n'arriverait même pas à quelque chose de totalement neutre, et de toute façon, la neutralité n'existe pas chez l'être humain.
Alors, sur quel principe est-ce qu'il repose ce devoir d'impartialité exactement ?
C'est notre déontologie. Et puis, au-delà de la déontologie, c'est aussi pour... c'est un pendant de ce que la justice est légitime. C'est-à-dire que comme on n'est pas élu, on est formé, formé très lourdement, ça aussi, il faut le rappeler. Être impartial, c'est aussi... instaurer une confiance avec le justiciable en ce que vous ne serez pas jugé sur ce que vous êtes, mais sur ce que vous avez fait. Nous jugeons des infractions commises par des êtres humains, mais nous jugeons des infractions. Ce qui nous permet de dire, lorsqu'on est remis en cause sur nos appartenances syndicales, associatives, etc., de dire, une fois dans le tribunal, je ne vois plus qui vous êtes. Enfin, je vois qui vous êtes parce qu'on a besoin de revenir sur vos histoires, sur vos parcours. Mais par contre, ce que je suis moi à l'extérieur, ce que vous êtes à l'extérieur, c'est parce que je vais regarder, c'est si l'infraction est caractérisée. Et puis, il y a le second temps de l'audience où si c'est caractérisé, cette infraction, je regarde qui vous êtes, mais non pas pour rajouter comment dire? Non pas pour pénaliser d'autant plus, parfois ça va alourdir la peine parce qu'il y a un passé pénal, mais que vous soyez de telle couleur politique, de telle couleur religieuse, d'appartenance associative, ça n'intéresse pas le juge. Ça peut parfois colorer, par exemple, un dossier de terrorisme, on va regarder cette appartenance religieuse, mais juste pour comprendre le parcours et ce qui a motivé un geste. Et c'est vraiment une distinction qu'il faut bien saisir et chercher la neutralité des magistrats, ça peut être en réalité très dangereux, puisque ça peut laisser craindre aux magistrats de prendre des décisions qui pourraient être mal interprétées, et le justiciable doit être lui parfaitement conscient que ce sont des êtres humains qui jugent, et qu'on peut pas devenir un robot quand on rentre dans une salle d'audience. On vient avec ce qu'on est, mais toujours dans le cadre de la loi. Il faut rappeler que la loi nous encadre très, très clairement dans tout ce qu'on fait. Il y a le second degré de juridiction, c'est-à-dire le droit de faire appel. La collégialité est aussi un moyen de se protéger de la partialité des magistrats, puisque la composition, en l'occurrence, par exemple, pour ce procès-là, 5 magistrats, il y a un appel qui est possible, la Cour de cassation arrivant dans un dernier échelon. Il y a énormément, en réalité, de contre-pouvoirs. Tout n'est pas parfait, attention, il y a des réformes qui sont possibles et qui sont très demandées pour garantir cette fois-ci l'indépendance, mais du côté de l'impartialité, en réalité, ce qui met en danger cette impartialité, c'est le manque de moyens de la justice, d'une part, puisque de plus en plus la collégialité disparaît, et l'autre sujet, c'est les attaques incessantes des responsables politiques qui jettent ce doute sur l'impartialité des magistrats en dénonçant des appartenances partisanes qui en réalité n'existent pas, juste parce que des magistrats prennent position dans la défense juste de leur institution.
Alors pour bien comprendre là où les avocats des parties civiles, de la défense ou l'avocat général peuvent poser des questions qui laissent transparaître leur opinion, un magistrat, lui, se doit d'être neutre ?
Pas neutre, impartial.
Impartial.
Neutre, ça voudrait dire qu'on n'a pas d'idée. Enfin, en fait, on ne se fait pas d'idée. Ça
Il
veut
faut
dire
tenir que... les deux plateaux.
En fait, c'est ça. Et c'est pour ça que la cour d'assises populaire, avec un jury populaire, est extrêmement importante, parce que lors de cette expérimentation-là, les jurés se rendent compte de ce que c'est complexe, en réalité, l'être humain, ouais. Et que l'être humain doit nous traverser. Quand on prend des décisions, on a le droit, évidemment, mais ce serait absolument radical que de penser qu'en droit. Donc le droit, c'est notre base, et ensuite, l'être humain nous traverse pour prendre une décision, et pour que ça nous traverse, on vient avec nos formations de magistrats, qui est extrêmement complète, hein, c'est très long, et aussi avec nos histoires, mais qui nous ont forgés en tant qu'êtres humains, et à avoir cette sensibilité, comprendre les mécanismes de l'être humain, ça c'est notre formation, mais c'est aussi nos histoires qui nous aident à faire tout ça. On devient magistrat pas que par hasard, enfin, je veux dire, c'est des métiers qu'on choisit, comme on devient professeur des écoles, comme on devient éducateur, parce que on a aussi cette capacité à regarder l'être humain et à l'appréhender, que ce soit en matière pénale, mais en matière civile aussi. Lorsqu'il faut intervenir pour placer des enfants, lorsqu'il faut intervenir pour divorcer des gens, quand il y a des gens qu'on doit mettre sous tutelle, tout ça, c'est du droit, mais on doit aussi composer avec ce que les gens nous amènent. Et à la fin, tout ce mélange-là, qui est parfois complexe, mais pas toujours, nous fait prendre une décision. Et ça ne peut pas être neutre.
Alors Elisa, l'audience s'est donc terminée avec 2 nouveaux magistrats.
Oui, et le procès a un petit peu débordé de son planning originel. Le verdict, initialement prévu vendredi, a finalement été prononcé ce lundi 2 mars. Comme en première instance, les 4 accusés ont été reconnus coupables. Brahim Chinna, pour sa part, est copé de 10 ans de réclusion criminelle. Pour Abdelhakim Sefrioui, 15 ans de réclusion ont été prononcés. En revanche, les 2 complices présumés de l'assassin de la victime ont vu leur peine réduite en appel à 6 et 7 ans de prison. Ils avaient pris 16 ans de réclusion criminelle en première instance. Ils étaient jugés à l'origine pour complicité d'assassinat. Ils ont finalement été condamnés pour association de malfaiteurs sans que le caractère terroriste de celle-ci ne soit retenu. La famille de Samuel Paty s'est exprimée après l'annonce du verdict. Si elle est satisfaite des deux premières peines, elle se dit heurtée par les deux autres, drastiquement réduites.
Alors merci Elisa pour ces explications. Manon Lefebvre, pour revenir aux deux magistrates récusées pendant ce procès en appel, comment elles ont été remplacées? Et est-ce que dans tous les procès, des magistrats sont prêts à prendre la relève au pied levé en cas d'impossibilité?
Alors en cas de récusation, là j'ai pas d'informations sur ce qui s'est passé à Paris, mais en tout cas lorsqu'il y a un cas de récusation qu'un magistrat de lui-même, hein, parce que c'est possible de dire je ne peux pas intervenir sur ce dossier, je me déporte, soit c'est le chef de service pour faire plus simple, ou le président de la juridiction qui va désigner d'autres magistrats. Dans les grosses juridictions, il y a ce qu'on appelle des juges bibliothèques qui sont prévus pour remplacer les magistrats, même parfois en cas d'indisponibilité pour des raisons médicales, d'urgence familiale. Et dans ce cas-là, on va désigner d'autres magistrats qui vont remplacer ces magistrats qui n'ont pas pu être en état de prendre cette audience.
Et dans ces cas-là, est-ce qu'ils ont suivi le dossier depuis le départ ou ils découvrent en arrivant au moment où...
Alors, la plupart du temps, en fait, tout ça arrive en amont de l'audience. C'est-à-dire que, par exemple, un collègue va à cette audience, se rend compte dans le rôle, c'est-à-dire le document dans lequel il y a tous les dossiers de la journée, qu'il a par exemple été, à un autre moment, juge d'instruction ou juge des libertés de la détention dans ce dossier. Il ne peut donc pas intervenir dans ce dossier puisqu'il est déjà intervenu à un autre titre. Et donc en amont, il dit « je ne peux pas être dans ce dossier ». Et parfois, il reste dans l'audience et au moment où le dossier arrive, il sort de l'audience, un autre magistrat le remplace et ce magistrat reviendra pour les dossiers suivants. Donc en fait, on s'en rend compte la plupart du temps en amont, c'est la majeure partie des cas, ce mise en cause est mon cousin, j'ai été juge aux affaires familiales dans une autre audience, j'ai divorcé ces gens, c'est plein de situations, mais la plupart du temps, on s'en rend compte en amont ou au moment de l'intervention de l'audience, tout s'arrête, on sort, et par contre, il faut reprendre avec les nouveaux magistrats, puisque les nouveaux magistrats doivent avoir suivi les débats.
J'ai une dernière question. Les magistrats, on le rappelle, sont formés à l'École nationale de la magistrature. Est-ce que ce principe d'impartialité fait partie des enseignements qu'on reçoit là-bas?
Oui, absolument. C'est vraiment au cœur. C'est au cœur. C'est une partie très importante de la formation de magistrat parce que c'est ce qui doit nous guider dans notre processus de doute. Et alors, ça ne traverse pas pour chaque dossier, hein, je vous assure, l'impartialité. Mais ça, en fait, ça fait partie de nous, de notre activité professionnelle, de notre rôle. Mais il y a des dossiers où c'est vrai, en fonction de la nature des infractions, ça peut nous traverser de dire est-ce que on est formé à ça et c'est indispensable qu'on maintienne ce travail parce que s'il y a un doute, il faut s'en écarter. Mais ça peut pas être parce que je suis sensible à telle question, parce que c'est pas une raison de ça me dérange. Parce que si ça dérange, il faut pas être magistrat. C'est-à-dire que si on est heurté certaines infractions, par plein de choses en réalité qui constituent la société et les humains, c'est compliqué d'être magistrat. Mais en réalité, c'est ça fait partie vraiment des indispensables du magistrat, l'indépendance. Étant tout aussi gros que l'impartialité, voire au-dessus, ça nous guide tout le temps. Et dès qu'on essaye d'atteindre à ça, il faut tout de suite se poser la question, tout de suite se lever et réfléchir à ce qui se passe. C'est vraiment deux choses essentielles quand on est magistrat, l'indépendance et l'impartialité.
Deux boussoles. Merci beaucoup Manon Lefebvre pour votre éclairage et votre participation. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur bfmtv.com et les plateformes de streaming. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles enquêtes dans Affaires suivantes, le podcast inédit.